Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulay. Bienvenue à Jason Éducation. Cet épisode est la suite à l'épisode numéro 2. Nous continuons l'entrevue avec Joëlle Tétrault. Bonne écoute! T'as mentionné la gestion de classe. Mm-hmm. Et alors, on a tendance à comme, oui, tu as des billes sur une ficelle, puis si toutes tes billes sont sur le côté droit, tu vas avoir telle chose. Quelles idées as-tu pour faire une gestion de classe plus holistique, si ça c'est le bon mot?
Moi, je ne commencerai pas à enseigner du curriculum avant 2-3 semaines dans l'année. J'apprendrai à connaître mes élèves. Les connaître comme personne d'abord et avant tout. Dans l'approche autochtone, pédagogique autochtone, c'est relation d'abord et avant tout. Imagine, comme avant l'arrivée des Européens, c'est les tantes et les oncles qui enseignaient, et les aînés, pas les parents biologiques. Les parents biologiques étaient trop proches de leurs enfants. On avait besoin des gens qui les aimaient, mais qui avaient aussi une petite distance avec l'enfant pour qu'ils puissent les corriger quand ils devaient le faire. Alors, pour moi, ce qui a vraiment changé, moi, j'étais un enseignant horrible pour les premiers 12 ans de ma carrière. J'aurais pas voulu être dans ma propre classe. Parce qu'on m'avait dit, oh, tu ne peux pas être ami avec les élèves. Tu ne souris pas avant le mois de novembre. Faut que tu sois vraiment, vraiment strict avec eux autres. Ça ne fonctionnait pas. Moi, j'étais malheureux. Mes élèves étaient malheureux. Alors, quand j'ai commencé à vraiment essayer d'établir des relations sincères avec mes élèves. J'ai commencé à faire des entrevues avec eux, comme j'ai dit, ben, j'avais pas de supplément en rien, là, je laissais mes élèves, je trouvais une activité pour qu'ils puissent faire soit en groupe ou individuellement, mais je sortais chacun de mes élèves individuellement dans le corridor, puis j'avais une conversation, une entrevue avec eux autres. Je leur disais, qu'est-ce que vous aimez apprendre? Comment vous aimez apprendre? Est-ce que vous aimez l'histoire? C'est quoi vos qualités? C'est quoi vos dons? Parce qu'à la base, le but de l'enseignant, c'est de trouver les dons dans ses élèves puis de développer ces dons-là. Pas tous les élèves ont les mêmes dons. Alors, c'est ça, quand on parle de varier l'enseignement, il faut essayer de trouver les dons de chacun des élèves puis essayer de varier notre enseignement pour que tous les dons des élèves soient développés. Mais tu ne peux pas faire ça si tu ne prends pas le temps pour apprendre à les connaître. Alors, pour moi, c'est ça. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé dans la gestion, c'est de créer, au début, on appelait ça un contrat social, mais après ça, j'ai appelé ça un traité de classe.
Ooh.
Un traité de classe. Puis là, tu sais, là, faut que tu passes à travers de l'éducation, c'est quoi un traité? Alors, puis là, ça donne l'occasion d'intégrer des perspectives autochtones. Mais un traité, c'est vraiment un engagement solennel entre tous les gens qui sont là. Puis, la réciprocité, c'est une valeur qui est super importante. Le respect et aussi le bien-être. Quand on parle de bien-être, c'est bien-être mental, physique, spirituel. Tu sais, le spirituel, c'est un petit peu plus compliqué dans le système public. Puis, on peut en parler, mais c'est pas... On peut pas... Ça, je laisse ça aux parents pour la spiritualité. Mais pour avoir le bien-être, c'est avoir une bonne santé dans tous les aspects. Alors... Je m'assoyais, puis ça prenait du temps. Des fois, ça prenait une semaine. Mais on établissait c'est quoi notre traité de classe, c'est quoi nos responsabilités. Mais surtout, voici les comportements qu'on veut voir au lieu de concentrer sur les comportements que je ne veux pas voir. Puis souvent, c'est ça, on fait des règlements. C'est si tu fais ça, tu sors ton téléphone, je l'enlève ton téléphone. La deuxième fois, j'appelle ton parent. La troisième fois, ben. Alors, on se crée une situation où on se crée des règlements, puis ensuite, on devient une police et non un enseignant ou non quelqu'un qui a vraiment leur intérêt à cœur. Alors, pour moi, c'est de demander aux élèves quels sont les comportements. Puis j'avais des valeurs, on crée des... je commençais en parlant de valeurs. C'est quoi des valeurs? Souvent, ils n'ont aucune idée c'est quoi une valeur, même au secondaire. Fait que là, on parle de c'est quoi une valeur. Qu'est-ce que... honnêteté, loyauté, amitié. On parlait de c'est quoi leur valeur fondamentale. Parce qu'on en choisissait 5. 4, 5. Des fois, il y en a 7. Voici des valeurs fondamentales. Bon, on va aller valeur par valeur. Quels seraient des comportements qui respecteraient cette valeur-là? Là, les élèves, ils savent. L'honnêteté, bien, l'honnêteté, ça veut dire que je fais mon propre travail puis que je ne copie pas. Ils vont te le dire. Puis la manière que c'est eux qui le disent, mais ils sont engagés. Ça ne veut pas dire, ça veut pas vouloir dire qu'ils ne vont pas faire des choses, que ça va être parfait dans ta salle de classe, mais au moins, il y a un engagement parce qu'il y a une relation qui a été établie. Puis l'autre chose, c'est de s'assurer que les élèves sont conscients que, OK, oui, tu es l'enseignant, mais tu peux apprendre, tu vas apprendre autant de eux qu'eux vont apprendre de toi. Puis que aussi, tu vas dire, moi, je vais faire des erreurs cette année, puis je vais l'admettre quand je fais des erreurs. Puis si, par exemple, il y a une évaluation, puis 50% ou même 30% de la classe n'a pas bien fait sur l'évaluation, on se reprend, puis je vous donne des chances jusqu'à temps qu'on l'ait ensemble. Ça, c'est l'autre chose aussi, mais si je parle au secondaire, c'est cette concentration sur les notes. Pour moi, c'est aussi créer, je créais mes grilles d'évaluation avec les élèves. On faisait le module, voici ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris pendant le module? Blablabla, on faisait une liste des choses. Bon, comment qu'on pourrait bien évaluer? Quelles sont les choses qu'on devrait vraiment évaluer puis quel type d'évaluation vous voulez faire? Voulez-vous faire un travail de groupe? Voulez-vous faire un projet? Puis j'avais plus de tests. J'avais éliminé tout test formel dans ma salle de classe. Alors, OK, il faut dire, là, comme je ne veux pas exagérer non plus, parce que ça peut prendre... On a quand même une question de temps. Alors, il n'y a pas toutes les grilles d'évaluation qu'on faisait en groupe. Mais si j'avais le temps, on créait la grille d'évaluation ensemble. Puis des rubriques claires et précises, là. Pas nécessairement quantitatives, mais qualitatives. Qu'est-ce qu'on veut voir dans un projet, etc. Alors, c'est miser sur le qualitatif et non sur le quantitatif aussi. Alors, c'est vraiment avoir une relation réciproque avec les élèves. Pour moi, ça, apprendre à connaître tes élèves et s'assurer qu'ils sachent que tu n'es... Oui, t'es la figure d'autorité, mais vraiment, c'est pas ça le but, c'est que vous apprenez ensemble. On va apprendre ensemble. On va créer une société ensemble.
J'ai eu l'idée de traiter ma classe comme un village. Mm-hmm. Moi, je suis très... j'encourage beaucoup l'autonomie des élèves et j'essaie de jamais faire des tâches qu'eux autres peuvent faire. Et surtout si on a un projet puis ça fait un dégât, je veux pas que ce soit moi qui ramasse après eux autres. Mm-hmm. Donc, j'ai pensé cette année peut-être parce que il y a toujours des élèves qui adorent aider. Il y a d'autres qu'aussitôt qu'ils ont fait le minimum, ils lâchent puis ils font des folies puis là, je suis en train de les gérer. Donc, j'ai pensé cette année peut-être de premièrement, on va nommer notre village, puis on va tous être des villageois, des villageoises de notre village, de salle de classe. Puis, j'espère que ça va augmenter leur engagement parce qu'on va faire des liens. OK, bien, si tout le monde dans la ville de Winnipeg laissait des dégâts par terre, qu'est-ce qui arriverait?
Oui.
Comment aurait l'air notre ville? Bien, regardons qu'est-ce qu'on fait en salle de classe, là. Il y a des crayons par terre. Si tout le monde perd un crayon, deux crayons par jour, est-ce qu'on va terminer par avoir des crayons par la fin juin?
Oui.
Donc oui, ça c'est... on va voir si ça fonctionne.
Je pense, pour moi, tu sais, comme j'ai dit, ça va pas être parfait, mais si tu peux convaincre tes élèves qui font partie d'une société, qui sont toutes, sont en relation, c'est pas des individus dans une salle de classe, ils sont une famille, un village, une famille... qui sont en relation, je pense que non, ça ne va pas éliminer tous les problèmes, mais ça va être plus facile pour toi d'avoir des vraies relations. Puis, tu sais, si un élève pitch ou fait des dégâts dans sa classe, tu peux avoir une vraie conversation avec cet élève-là, ou ce que l'élève va pas avoir peur, ou va juste te dire ce que tu veux entendre, et ensuite juste continuer le comportement. Alors, il faut vraiment créer cet engagement-là, que les gens sont liés ensemble, qu'ils sont pas juste une classe, mais une société. Qu'on veut que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça prend pour qu'une société fonctionne bien?
Exactement. Alors, tu as mentionné pour gestion comme comme absolument, il faut connaître ses élèves, puis juste laisser de côté le curriculum pour commencer. Surtout en alimentaire, on a du temps là.
Il n'y a pas d'inspecteur. Je sais, peut-être que je suis naïf, mais il n'y a pas d'inspecteur qui va voir si vous finissez votre curriculum ou non. Puis, soyons honnêtes, qui se rappelle qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai fait en cinquième année. Je me rappelle des relations que j'ai établies. Je me rappelle des sentiments que j'avais en cinquième année. Je me rappelle des projets qui m'ont marqué. Comme, je me rappelle, on nous a fait écrire une histoire d'Halloween pour un concours littéraire. Puis moi, j'ai décidé, parce que j'étais toujours un peu rebelle, j'ai dit, je ne vais pas écrire une histoire Halloween typique. Ce que je veux dire, c'est je vais écrire une histoire qui décrit pourquoi que j'haïs l'Halloween. Puis, fait que j'ai écrit une histoire, puis mon enseignant, qui est assez traditionnel, tu sais, elle m'a chicané. Elle a dit, non, tu vas recommencer ton histoire. Mais les gens qui choisissaient les histoires pour un recueil littéraire de jeunes sont rentrés, puis ils ont choisi mon histoire. Mm. Puis là, ça m'a démontré dès le début. Puis ça, c'était Anna Labelle. Puis ensuite, elle a enseigné à la faculté d'éducation. Elle était une de mes profs. Mais c'est elle qui avait choisi mon histoire en cinquième année. Puis je me rappelais encore. Puis ça, ça m'a laissé montrer que oui, on peut prendre des risques à l'école. Et ça vaut la peine. Alors, comme enseignants, si on peut vraiment dire à nos élèves ou démontrer à nos élèves qu'ils peuvent prendre des risques, puis qu'ils doivent prendre des risques, qu'ils doivent faire des erreurs. Souvent, ça, c'est une autre chose. Au secondaire, là, il y a des élèves qui ne veulent pas faire des erreurs. Moi, ma première semaine, j'élaborais des activités puis je les forçais de faire des erreurs. Puis après, je dis, vous allez corriger vos erreurs. Puis c'est comme ça qu'on va faire ça cette année. Puis l'autre chose sur les évaluations, c'est je leur donnais autant de chances que ça prenait pour qu'ils aient 100%. J'ai dit, mon but, c'est tout le monde. Non seulement réussissent, mais que, tu sais, pour vous autres, parce qu'il y a des élèves, tu ne peux pas leur convaincre que les notes ne sont pas importantes. Alors, pour eux autres, il faut que tu leur dises, pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde, si tout le monde a 100% dans ma salle de classe, c'est parfait. Alors, oui, le curriculum, surtout dans nos cours, trois quarts des informations, puis je sais qu'on ne veut pas l'admettre, mais trois quarts des choses qu'on va enseigner, nos élèves, ils vont les oublier. Alors, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le 25% qu'on veut qu'ils retiennent?
Oui, j'aime ça. Là, tu es en train de prioriser les choses qui sont vraiment importantes à la fin de la journée.
Sortez de la salle de classe aussi. Sortez de la salle de classe. Allez visiter votre communauté. Il y a des gens comme moi. Tu sais, ça, c'est une des choses. Moi, je regardais par la fenêtre constamment quand j'étais jeune. Puis je ne comprenais pas pourquoi. On avait une rivière à peu près à 200 mètres. De mon école. Je me demandais pourquoi qu'on ne va pas visiter la rivière. Moi, l'été, je passais tout mon temps proche de la rivière. Je regardais les arbres. Je passais du temps avec. Alors, sortez de la salle de classe. Puis je sais, des fois, on aime ça. On dit, oh, c'est trop compliqué. Tout ça. Non, juste sortez de la classe. Allez visiter votre communauté. Par exemple, j'ai apporté une classe de 7 et 8 de sciences du Collège Béliveau pour aller juste visiter Windsor Park. Puis dans ça, j'ai fait oui, c'est une classe de sciences, mais j'ai fait de l'histoire. J'ai parlé des rues, parce que la plupart des rues de Windsor Park, c'est des noms d'exploiteurs, des explorateurs, les gens appellent, mais moi, j'ai des exploiteurs. Les plantes, il y a des cottonwoods, des peupliers. Je leur ai dit, tu sais, la valeur médicinale du peuplier, pourquoi que les peupliers sont adaptés à notre environnement. Puis là, on était à Niagara Place, puis dire comment que c'était un lieu colonisateur, cette banlieue-là. Des noms de rues qu'on a pris, des noms coloniales de nations autochtones. Puis je vous ai dit, ça ici, c'est de l'appropriation culturelle. Alors, puis là, on a parlé aussi de l'esclavage. À travers de cette marche, on parlait de l'esclavage des peuples autochtones au Canada. Parce que les premiers esclaves au Canada, c'était des gens issus des Premières Nations. Ensuite, on était à la rivière, puis on a parlé de l'importance des rivières puis de l'écosystème des rivières. Alors, dans cette marche-là, c'est une marche d'une heure et demie, on a touché tous les sujets. Juste en sortant, puis là, la plupart des jeunes que j'étais triste, ils ont dit, on n'est jamais visité dehors de notre école. Cette heure et demie, on l'a passée, on a fait une marche, on a intégré l'activité physique aussi. Alors, il faut penser à des façons de sortir nos élèves de la salle de classe aussi. Je veux dire, les meilleurs enseignants pour les Premières Nations, c'était les plantes et les animaux. Il y a une histoire où ce que, tu sais, l'ours, par exemple, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un humain peut manger, tu suis un ours tout partout dans la forêt. Si jamais tu es perdu dans la forêt, tu suis un ours. À une distance, évidemment. Mais tout ce que l'ours met dans sa bouche, l'humain peut manger aussi. Alors, ils sont la plupart des histoires de création, c'est les animaux et les plantes qui ont été créés premiers parce que c'est eux les enseignants. Puis les animaux, les plantes, les insectes et l'eau ont tous sacrifié quelque chose pour que les humains puissent vivre. Alors, des fois, les gens disent... Ah, pourquoi que c'est souvent des animaux dans les histoires des Premières Nations? C'est pas parce que c'est des métaphores, c'est parce que honnêtement, les Premières Nations croient encore que les animaux, les insectes et l'eau sont plus intelligents que les humains et sont plus importants que les humains. L'humain est rien sans ces choses-là. L'humain est l'affaire l'être le plus pitoyable sur Terre. Parce qu'on ne peut pas survivre sans la nature, mais la nature va survivre très bien pour nous, sans nous. On le voit tout partout. On le voit avec le réchauffement climatique, on le voit avec l'extraction des ressources naturelles, puis qu'on pollue, puis les gens ne peuvent plus vivre. Si on écouterait aux plantes, aux animaux, à l'eau, puis on regarde comment les leçons qu'ils peuvent nous montrer, notre monde serait beaucoup mieux. Beaucoup meilleur, puis l'humain serait un meilleur être. Mais est-ce qu'on a oublié cette relation? On a perdu notre humilité. Alors, c'est ça. Ça, c'est des types de choses que tu sais, faut changer notre perspective. Comme dans les cours de sciences humaines 5 et 6, la façon qu'on enseignait l'histoire, c'est que les colons sont venus puis ont créé la démocratie. Puis c'est pas vrai. La démocratie existe ici depuis des milliers d'années. Alors, ça, c'est le type de choses que les enseignants se doivent d'aller juste sortir de leur zone de confort. Il n'y a pas un manque de ressources. Il n'y a pas un manque de ressources au sujet des perspectives puis de l'histoire autochtone.
Alors, parlant de sortir de la salle de classe, sortir de l'école, ce que j'entends beaucoup, c'est bien comment gérer les enfants quand ils sont dehors. Ça, c'est probablement la chose qui inquiète le plus les enseignants, les enseignantes.
Mais si tu as créé cette relation-là au début de l'année avec tes élèves, de créer une liste de comportements qu'on veut voir et qui ont aidé à créer ces comportements-là. Ils ont aidé à créer ce traité de classe ou ce contrat social. Pour moi, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que si un élève n'écoute pas, dit « C'est-tu ça qu'on avait discuté? Qu'est-ce qu'on avait discuté en salle de classe? » Puis c'est prendre le temps aussi de le faire. Puis je sais, je suis peut-être naïf. Puis, tu sais, c'est juste maintenant, là, après 17 ans de carrière dans la salle de classe au secondaire, je commence dans les écoles élémentaires. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, la plupart des enseignants ont des enfants, ont eu des enfants ou sont des tantes et des oncles. On sait si on crée des bonnes relations avec ces enfants-là, ils sont plus aptes à écouter en général.
Alors, ton traité serait pareil à l'extérieur.
Absolument.
Ça change vraiment
pas. Ça change pas. C'est pas le lieu physique qui gère nos relations. Moi, si je sors de ma maison, ma relation avec mes enfants puis mon épouse reste pareille.
Alors, peut-être c'est parce qu'on les sort pas assez souvent qu'on voit des comportements qui sont très différents dehors.
Parce qu'ils ont l'impression qu'une sortie scolaire, c'est quelque chose à part. Parce qu'on les a tellement habitués que la seule place où ce qu'on apprend, c'est dans la salle de classe. Ils sont conditionnés de penser ça. Parce que c'est vrai, on ne les sort pas assez souvent, mais aussi, quand on les sort, c'est juste comme... Des fois, c'est que l'enseignant, si jamais qu'on va à un musée, bon, on laisse l'animateur prendre soin, puis c'est peut-être une journée de... pas de congé, mais comme c'est temps de relaxer un peu. Puis vraiment, l'enseignant doit être aussi engagé dans cette sortie-là. Mais le plus qu'on les sort, le plus qu'ils vont réaliser que la salle de classe, c'est pas juste ici... C'est tout partout. Alors ça, c'est un conditionnement qu'on doit faire aussi. Tu as absolument raison. Alors, on ne les sort pas assez souvent, puis ils ne sont pas habitués à agir. Mais aussi, c'est prendre ces sorties-là puis le dire. Ça ici, c'est ça fait... Il faut s'assurer de planifier nos sorties avec ce qu'on enseigne en salle de classe aussi. Ce que je vois souvent, des fois, je vais apporter des classes, je fais une tournée métisse à la fourche de 3 heures. On fait une marche. on visite toute la fourche Saint-Boniface, puis on parle de l'histoire des Premières Nations avant l'arrivée des colons, et on parle de l'histoire métisse, l'ethnogenèse jusqu'à aujourd'hui. Mais souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais recevoir un groupe d'élèves, puis ils n'ont même pas parlé des métis encore. Ils n'ont pas parlé des Premières Nations. Alors, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. Alors, ils ne voient pas le lien entre la salle de classe puis qu'est-ce qu'ils apprennent durant la sortie. Alors, il y a un décalage, là. Alors, il faut bien être intentionnel dans notre planification des sorties.
OK. Wow. OK. Alors, je veux maintenant revenir un peu aux notes.
Oui.
Parce que surtout au secondaire, on s'inquiète pour les enfants qui vont aller étudier dans des établissements postsecondaires. Mm-hmm. Puis on se dit, bien, ils doivent avoir de bonnes notes pour pouvoir, tu sais, avoir des bourses ou même pour pouvoir comme accéder au programme qu'ils désirent. Alors, si on enlève les notes, bien, qu'est-ce qu'on fait?
Mais tu n'as pas besoin d'enlever les notes, mais ce que c'est créer... créer des projets évaluatifs ou créer des évaluations qui vont permettre à l'élève de faire des erreurs, corriger leurs erreurs et de s'améliorer. Alors, s'il commence avec un 70, on dit qu'il y a eu... Par exemple, j'ai dit que j'ai enlevé les tests formels. Alors, en histoire, on faisait surtout des projets soit individuels ou en groupe. Alors, le projet, il me donnait une première version du projet. Par exemple, j'avais un projet où il devait... expliquer puis enseigner la colonisation à travers d'un jeu de société. Soit qu'il calquait une idée d'un jeu de société ou il inventait un jeu de société complètement différent ou un jeu vidéo. Alors, je prenais la première version, on avait créé la grille d'évaluation ensemble, on regarde, je m'assoyais individuellement avec les groupes, on dit « voici ce qui vous manque ». Alors, vous avez une semaine pour corriger. Puis là, les élèves... corrigeaient. La plupart des élèves voulaient. Ils probablement étaient surpris que je leur donnais une autre chance. Puis ça, c'est une grosse affaire. Il faut leur montrer que c'est jamais final, l'évaluation. On est toujours en mode évaluation. Puis l'évaluation, ça ne veut pas dire avoir une note, ça veut dire comment que je peux m'améliorer. Alors, à la fin, souvent, je leur donnais des chances jusqu'à temps que le projet est à 100%. Alors, pour moi, c'est donner cet espace pour faire des erreurs, de s'améliorer. Puis là, après ça, si on exige des notes, bien, ils vont avoir 100% ou 95%. C'est ça, mais ils ont appris en faisant. Alors, c'est ça, c'est de bien planifier nos évaluations, que les élèves soient très clairs des critères d'évaluation et leur donner des chances d'améliorer ou de corriger leurs erreurs. Puis s'ils font ça, bien, ils vont avoir des bonnes notes. Alors, pour moi, je n'étais pas inquiète. Mes moyennes de classe étaient excellentes. L'autre chose, c'est que je m'ai complètement débarrassé d'examen final. C'était un projet final qu'il faisait. Ou que le projet devait résumer toutes les choses qu'on avait. Souvent, ce que je leur demandais, c'est soit de faire un documentaire sur toutes les choses qu'ils ont apprises durant l'année. À un point, j'ai dit, choisissez qu'est-ce que vous voulez faire. Écrivez une lettre. Fait que tu veux vraiment demander aux élèves comment ils veulent être évalués aussi. Il y en a qui veulent faire des films. Il y en a qui veulent écrire, alors varier aussi, puis donner des choix aux élèves de comment. Alors, si tu donnes ces choix-là, tu leur donnes la chance de se corriger, comme enseignant, tu ne vas pas t'inquiéter de notes. Mais ce que tu ne fais pas, c'est que tu, dans ce moment-là, tu n'utilises pas la note comme une menace, comme une épée de Démoclès. J'espère que je dis ça comme il faut, là, parce que c'est comme toujours une menace pour les contrôler, parce que c'est pour ça qu'on a inventé les notes. C'est un moyen de contrôle. Mais si tu changes la philosophie de c'est quoi une note c'est pour démontrer comment que tu as cheminé comme étudiant.
Oui, là, c'est comme, c'est pas la note, le but ultime, c'est l'apprentissage. Le focus est complètement différent.
Parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que quand je donnais des tests, puis l'élève avait 57%, on va dire, sur le test, puis je leur disais, c'est tout, c'est final. L'élève arrête d'essayer après ça, c'est ça. Alors, tu veux toujours donner la chance de t'améliorer. Alors, la note, c'est pas la fin. Tu concentres sur le processus et non sur la fin. C'est vraiment ça. C'est concentré sur le processus.
Et c'est bon pour l'enseignant, l'enseignante également, parce que là, c'est comme... C'est plus guider les élèves et voir leur processus. Et là, c'est... Ça doit être moins de travail. Parce que si tous les élèves donnaient... OK, la date d'échéance, c'est vendredi. Alors, tout le monde donne son projet et là, tu passes comme des heures à évaluer leur projet. Mais si tu es en train de suivre comme le cheminement de chaque groupe, puis tu es en train d'évaluer en même temps, ça doit être moins de travail, en fin de compte.
Bien, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je faisais beaucoup moins d'évaluation sommative, beaucoup de formatif. Alors, il y a du travail à faire. Il faut que tu sois assidu dans tes commentaires avec les élèves. Alors, le travail, je pense qu'il est assez similaire, mais juste différent. Puis plus stimulant pour l'enseignant aussi. Alors, parce que tu chemines avec l'élève. Puis tu aussi, tu apprends au sujet de toi-même aussi comme, oh man, la plupart des élèves ont vraiment pas eu ce que j'ai essayé de leur enseigner là. Alors, ça, comme enseignant aussi, après ça, la prochaine fois que tu l'enseignes ou tu le reprends dans ta salle de classe, puis ça te permet de te corriger puis de t'améliorer comme enseignant. Alors, tu chemines avec l'élève au lieu d'être un peu comme le juge final. Parce que souvent, c'est ça, les élèves, quand tu es vraiment fort sur les évaluations sommatives ponctuelles, l'élève te voit seulement comme un genre de, je sais pas, comme un juge qui donne des notes. À place d'être un éducateur, quelqu'un qui guide l'élève. Parce que vraiment, c'est ça qu'on est. On est des guides. On est des guides pour l'élève, pour qu'il devienne une meilleure personne. Alors, c'est ça. Je pense. Puis une note, c'est tellement transactionnel. C'est tellement capitaliste. Puis je ne veux pas rentrer dans le discours politique, mais vraiment, là, si on veut vraiment construire des bonnes sociétés, il faut vraiment qu'on conditionne les enfants à faire les choses pour les bonnes raisons. Pas parce que je veux une note, mais parce que je veux m'améliorer comme personne, puis je veux m'améliorer comme élève. Pas parce que je veux le 99%. Puis souvent, c'est ça. Je veux dire, encore, c'est enlever cette idée que l'école, que l'éducation ou le système scolaire, c'est un lieu de transaction seulement.
Bien oui, parce que les notes deviennent la manière de se voir aussi. Moi, je suis une personne de 80. Moi, je suis une personne de 90. Ça devient une partie de l'identité. Et ça l'a été quand c'était ça pour moi. Mm-hmm. Et j'ai dû faire beaucoup de travail interne pour comme me séparer de ça.
Mais c'est l'intention l'intention originale du système d'éducation publique, c'était ça. C'est de faire le triage de qui mérite d'être dans l'élite, qui mérite d'être pas dans l'élite.
Ouais.
Comme, je veux dire, les premiers systèmes d'éducation publique, c'était aux États-Unis, puis c'est Thomas Jefferson. Puis lui, il a dit, moi, le but de l'éducation publique, c'est pas que tout le monde nécessairement s'éduque, mais je veux vraiment faire le triage de qui mérite, puis qui mérite pas d'être l'élite dans le pays. Alors, il faut enlever cette idée-là que l'école devait être un triage. L'école devrait être pour tout le monde. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. Quand on parle d'inclusion, vraiment, c'est ça.
Alors, maintenant, je suis comme, OK, disons que je suis une enseignante qui n'a pas fait de lecture, qui ne s'est pas peut-être éduquée et qui n'a pas eu cette éducation importante quand ils étaient jeunes.
Oui.
Alors, comment je commence maintenant? Je veux me dédier à la réconciliation.
Oui.
Comment est-ce que je m'y prends?
Bien, ça dépend. Est-ce que, si tu es lecteur, puis tu aimes la lecture, il y a des livres. Moi, je commencerais avec le livre de Verna Saint-Denis qui s'appelle « Decolonizing Education ». Ça, c'est probablement l'un des livres avec lesquels je commencerais. Mais il y a plusieurs livres maintenant sur la pédagogie autochtone. Alors, si tu aimes la lecture, il n'y a pas un manque d'informations. Je lirais non seulement des livres par rapport à l'éducation, mais je lirais aussi des livres, des romans, comme Thompson Highway, Kiss of the Fur Queen. Ça, c'est... il parle des ravages des pensionnats autochtones. Il parle des ravages et des traumatismes de la colonisation. Alors, la littérature, tu sais, Louis Riel, un de ses... Puis on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'a jamais pu vraiment l'attribuer à lui, mais quand même, je vais l'utiliser. Il dit, mon peuple va dormir pour 100 ans, mais c'est les artistes qui vont les réveiller. Et je crois sincèrement que la littérature est aussi importante que lire des livres non-fiction. On t'apprend autant. Si t'es visuel, l'ONF... a l'une des meilleures collections de films autochtones, documentaires autochtones qu'il n'y a pas au pays. C'est une ressource gratuite pour les enseignants au Manitoba. Ils ont une section d'éducation autochtone et il y a même plusieurs plans de cours qui ont été faits pour certains des films. Alors, il y a une douzaine de films où ce qu'on a, des enseignants autochtones ont créé des plans de cours pour qu'ils suivent les films. Alors, par exemple, tu parles de Shoal Lake. Il y a un film qui s'appelle Freedom Road. C'est un documentaire en cinq parties où ils examinent comme l'effet de la colonisation sur les différentes personnes dans la communauté, les aînés, les femmes, les hommes, les jeunes. Et il y a un plan de cours. Alors, si tu es enseignant, tu peux apprendre au sujet des effets de la colonisation d'ici, de Winnipeg, mais aussi avoir un plan de cours puis le faire avec tes élèves aussi. Alors, l'ONF est une, je pense, c'est un outil qui est un des outils les plus importants qui est sous-utilisé par les enseignants. Surtout que tout le monde a un abonnement au Manitoba, je sais. Dans la DCFM, dans la division aussi, les enseignants ont accès gratuit. Et les balados. Je pense que si tu aimes les balados, si tu aimes aller courir ou des choses. Moi j'aime ça, je fais de la course à pied. Puis j'adore écouter des balados pendant que. Alors, il y a plusieurs balados sur l'histoire et sur des sujets autochtones, comme je pense à Secret Life of Canada, qui est excellent. All My Relations, qui est quand même un balado américain, mais qui... Je veux dire, faut comprendre que pour les peuples autochtones, les frontières entre les États-Unis et le Canada, là, ça c'est imaginaire. Y a un bon podcast qui parle ici de Winnipeg, Muddied Waters, qui est une série qui parle de l'histoire métisse. Et ça, je pense que c'est un balado en 5 ou 6 parties. Il y a 150 Winnipeg aussi, si vous aimez quelque chose de local. Il parle de différents événements et personnages locaux. Il y a des centaines de balados. J'essaie de penser à d'autres, là. J'essaie de penser en français. Oh! Zone autochtone sur Radio-Canada. Espace autochtone sur Radio-Canada, c'est une excellente. Excellente ressource. C'est à date. Ça, c'est pour moi, pour les actualités. Les actualités autochtones, c'est vraiment un go-to. C'est vraiment bien.
Alors, on commence à faire son travail interne pour oui. aussi se décoloniser. Puis, oui. Et ensuite, OK, j'ai fait un travail oui. et je continue à en faire.
Oui.
Et comment est-ce que là, je fais des liens dans ma pratique. Ça, c'est la partie explicite que parfois c'est...
Mais moi je regarderai mon... Après que je fais un... Après que vous avez fait un trajet personnel, vous êtes éduqué, vous avez écouté une couple de balado, vous avez lu quelques livres, c'est là que vous n'allez pas pouvoir voir les choses de la même façon. Ça va changer votre perspective à tout jamais. Puis vous allez commencer à voir qu'est-ce qui est tellement colonisateur dans votre salle de classe. Alors, dès le début, vous allez voir, il y a des choses que vous pouvez changer, surtout dans la gestion de classe, ces choses-là. L'autre chose qui est très importante, ça va vous exiger de regarder votre curriculum. Premièrement, dire qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important dans mon curriculum, faire un triage. Et ensuite, comment est-ce que j'intègre ces connaissances-là dans le curriculum. Puis, après que vous avez fait cette démarche personnelle, vous allez voir, ça va venir assez...
Naturellement?
Naturellement, je dirais oui. Oui, ça, plus naturellement. Mais il faut commencer par vous éduquer avant. Ça, c'est la première chose. Et pas avoir peur de poser des questions. Si vous connaissez des gens qui sont connaissants dans le domaine, envoyez des questions, posez des questions. L'autre chose, c'est peut-être convaincre votre vision scolaire ou convaincre vos organismes d'éducateurs, comme par exemple les EFM, par exemple, de faire plus de développement professionnel. Autochtones, parce que c'est ça le rôle des EFM, c'est ça. Au niveau d'MTS aussi, il y a des ateliers qui peuvent être, on peut demander des travailleurs de la MTS de venir faire des ateliers par rapport à ça. Je sais qu'ils font « Opening the door to reconciliation », c'est un de leurs... Et souvent, ça, c'est sous-utilisé aussi. Alors, la minute que vous allez faire votre éducation, vous allez faire ces choses-là, vous allez commencer à voir les choses différemment. Et là, vous allez commencer à vraiment... Le plus que vous en connaissez, le plus que vous allez réaliser qu'on ne connaît rien, puis là, vous allez aller dans d'autres directions. Puis, ça va être, c'est de reconnaître que, tu sais, si cette année, je peux juste intégrer deux choses, c'est correct. L'année prochaine, j'en intègre six. Faut pas on peut pas réinventer la roue dans une année scolaire. Mais c'est juste de changer certaines pratiques. Petites pratiques, puis après ça, on change en cours de route. Mais prendre des choses lentement au début, mais à mesure que vous allez vous éduquer, puis à mesure que vous allez mettre en pratique ce que vous apprenez, ça va commencer à vraiment prendre effet, vraiment accélérer après ça. Mais il faut vraiment commencer à s'informer avant, puis s'éduquer. Je pense que c'est la première. Moi, je dis toujours, vérité et éducation avant réconciliation. Puis ça pour moi, ça c'est essentiel. L'autre chose que je propose, puis ça c'est une autre responsabilité que j'ai à la division scolaire Louis-Riel, on a créé un SharePoint, ou un site web. On a mis toutes sortes de thèmes importants comme les femmes autochtones disparues, assassinées, les traités. On a créé toutes sortes de thèmes. Puis là, une de mes responsabilités, c'est de mettre des articles puis des ressources pour chacun de ces thèmes-là. Alors, ça c'est au niveau divisionnaire. Ça, c'est si vous pouvez pousser pour quelque chose de même. Ça aide énormément. Alors, chaque fois que je crée beaucoup de ressources aussi, beaucoup de présentations pour la salle de classe, chaque fois que j'en crée une nouvelle, je la mets sur le site web. Fait que tous les enseignants. Ça, c'est une autre chose, je pense, qui est très importante. Faut trouver le temps de s'entraider. Puis ça, c'est une autre chose dans la division scolaire Louis-Riel qui m'a beaucoup aidé. Bien, au secondaire, en tous les cas, c'est qu'à chaque mercredi, il nous donnait une heure et demie de temps de collaboration entre enseignants. Alors, l'école commençait plus tard pour les élèves. On avait le premier bloc du mercredi pour collaborer.
Chaque mercredi.
Wow. Alors, c'est exiger du temps de collaboration. C'est sortir de notre salle de classe pour aller partager nos idées aussi. Parce que des fois, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se fait de l'autre côté du couloir. Alors, prendre le temps de se parler. Exiger de nos administrateurs qu'ils doivent créer, c'est important de créer du temps de collaboration. Ça, c'est, pour moi, ça aussi, c'est le temps. Tu sais, comme enseignant, le temps est précieux. C'est prendre le temps. Puis vraiment faire le décortiquage de qu'est-ce qui est vraiment important. Encore, concentrer, c'est quoi le 25% que je veux que l'élève ressorte? Parce que c'est ça, ils vont juste se rappeler de 25%. Même pas des fois, 10%. Qu'est-ce que je veux que l'élève ressorte? Et après que tu as trouvé ton but ou les choses que vous voulez absolument que les élèves sortent de votre classe avec ces habiletés-là, ces connaissances-là, là, les choses deviennent plus faciles, je pense. Il faut faire un décor. Tu sais, il n'y a rien de meilleur que faire le ménage dans son garde-robe. Des fois, on garde des pièces, des vêtements, des fois qu'on n'a pas mis dans 12 ans. C'est comme, pourquoi que je le garde? Il faut faire un triage à chaque année. Puis il faut revoir qu'est-ce qu'on fait à chaque année. Ça, c'est un autre important. Avoir l'humilité de revoir et de jeter des choses qui ne sont pas importantes. Alors, c'est ça que moi, je recommande. C'est un temps de ressourcement. Moi, le début de l'année, c'est toujours un temps de ressourcement. Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je garde? Puis la pire chose qu'on peut faire comme enseignant, c'est commander nos photocopies au mois de juin, puis être content qu'ils sont arrivés en septembre, puis let's go, on fait ça. Je pense que c'est un desservice pour nous. C'est bon pour nous autres, c'est efficace pour nous autres. Puis moi, les premières années, j'étais tellement fier. Oh, regarde mes piles de photocopies. I'm ready to go.
T'as l'air tellement prêt.
Mais est-ce que ça sert vraiment à l'élève? Ça me sert comme enseignant, mais est-ce que ça sert vraiment à mes élèves de faire ça? Alors, pour moi, c'est toujours être en... Tu sais, on veut que nos élèves s'auto-évaluent. Je pense qu'on doit être en mode auto-évaluation tout le temps. Mais je ne veux pas dire se punir constamment, mais de constamment s'auto-évaluer puis dire, est-ce que ça vaut la peine, ça, ici? Pareil comme quand je regarde mon garde-robe, est-ce que ce pullover-là, je n'ai pas mis dans 12 ans, est-ce que c'est vraiment ce que je devrais garder? Alors, c'est faire cette réflexion-là.
Et je pense que ça te ressource comme personne aussi. Parce que si tu fais toujours la même chose, est-ce que tu as vraiment la joie dans tout ce que tu fais? Est-ce que ça te donne vraiment plaisir de faire la même chose chaque année? Comme moi, non.
Non.
Comme personnellement, juste comme personne, il y a des choses que j'aime, ouais. Mais comme ça ne me donne pas la joie de faire les mêmes choses. Et sur, ouais,
voilà. Non, c'est ça. Puis c'est comme... Comme enseignant, on veut que nos élèves aient l'impression qu'on aime ce qu'on fait.
Oui.
Moi, puis pas juste faire semblant, mais vraiment, les élèves, OK, le sens que tu es là parce que tu aimes ce que tu fais. Tu es passionné par ce que tu fais. Puis c'est ça, c'est plus difficile si tu fais la même chose chaque année. C'est beaucoup plus difficile. Les gens aiment la variété, les gens approcher les choses différemment, prendre des risques de temps en temps, ça rend... Tu sais, il y a une raison que les gens aiment faire du bungee jumping, ça tu sais. Puis des fois, je faisais exprès, puis dire, aujourd'hui, je planifie rien, puis on va faire quelque chose d'intéressant, je vais laisser les élèves me guider.
Wow!
Juste pour avoir ce sentiment-là de, est-ce que... Je ne recommande pas ça pour les enseignants que ça, ils viennent juste de commencer.
Non, oui.
Mais à la fin, dans mon temps dans la salle de classe, le vendredi, j'appelais ça la parenthèse. Les élèves pouvaient me poser des questions sur n'importe quoi. Et puis, on a parlé de communisme, on a parlé de système économique, on a parlé de démocratie, on a parlé d'esclavage, on a parlé de réchauffement climatique pendant ces temps-là. Ils pouvaient m'apporter n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité pour l'enseignant d'être bien informé et éduqué aussi. Alors, pour faire ça, il faut s'assurer que, tu sais, le fait que je ne t'ai pas préparé, je ne voulais pas dire que je ne t'ai pas préparé. J'étais comme, je lis beaucoup, je suis comme enseignant, il faut lire beaucoup. Il faut écouter, il faut écouter des podcasts, il faut constamment être à la recherche de s'améliorer. Si on veut que nos élèves s'améliorent, nous autres, on doit s'améliorer aussi.
Et disons qu'ils t'ont posé une question auquel tu n'as aucune idée.
Je disais, j'ai aucune idée, mais je vais aller faire de la recherche.
Et tu la reviens avec les gens.
Je la reviens la semaine d'après, puis je suis préparé. Mais ça me stimule aussi. Là. J'apprends quelque chose ou je ne connais pas quelque chose, je vais aller trouver la réponse, puis on va le discuter ensemble. Surtout, j'avais des élèves qui provenaient du Mali. On avait un programme à division scolaire Louis-Riel, des programmes qui attiraient des élèves internationaux. Et eux, souvent, il y avait des questions. On connaît tellement peu sur l'Afrique. Pourtant, on accueille beaucoup de nouveaux arrivants de l'Afrique, mais on ne connaît rien sur ce continent-là, rien de qu'est-ce qui se passe. Alors, depuis, tu sais, moi, comme enseignant, j'ai appris tellement de ces élèves-là parce que ça m'a forcé d'aller voir, oh, ben, c'est où le Gabon? C'est où la Côte d'Ivoire? C'est quoi la différence entre les mœurs de l'Afrique du Nord, puis les Afriques de l'Ouest, puis l'Afrique de l'Est? Alors, comme enseignant, t'sais, prendre des risques comme ça, ça te permet de devenir un meilleur enseignant, mais une meilleure personne en même temps. Alors, t'es toujours en mode d'amélioration. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est regarder dans le miroir puis dire, qu'est-ce que je peux améliorer? Mais ça prend un certain degré d'humilité aussi. Ça, c'est difficile comme enseignant parce qu'on pense qu'on devrait être l'expert dans tout, puis savoir tout, puis avoir toutes les réponses. Mais vraiment, il faut enlever cette façade-là. L'élève, ça l'aide aux élèves aussi de créer des relations avec toi. Parce que s'ils pensent que tu es infaillible, ils ne vont pas venir te demander des questions. Ils vont savoir que l'enseignant est faillible et juste comme eux autres. On est prêt à apprendre. On est des élèves aussi. Les enseignants, il faut qu'on soit des élèves à vie aussi.
Bien, c'est un grand honneur que tu viennes aujourd'hui. J'ai vraiment, comme, je suis passionnée, puis je retourne à l'école aujourd'hui, puis je vais travailler ma décolonisation de mon moyen terme. Donc, merci tellement d'être venu. C'était vraiment un plaisir.
Oh, c'est un plaisir, puis n'importe quand. Puis si jamais vous avez des questions, je vais donner mon courriel. C'est joel.tetrault. TETRAULT@LRSD.net. Si jamais vous avez des questions, vous voulez juste de l'aide ou vous voulez discuter quelque chose, je suis très ouvert à la conversation puis vous aider.
Merci beaucoup.
Ouais, il n'y a pas de quoi.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juelle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes. Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!